Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public à l'Opéra National de Lorraine à Nancy pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Sophie Avon de Sud-Ouest qui est venue au Livre sur la Place signer sa tempétueuse traversée de l'Atlantique, Le Vent se lève, au Mercure de France. J'arrive pas à savoir si tu as emprunté ton titre à Ken Loach ou à Miyazaki, peut-être aux deux à la fois d'ailleurs.
Ou à Paul Valéry.
Et avec les bénures de la critique, j'ai nommé Alain Riouriri de l'Obs et du Vélo, Cycloclub de Saint-Mandé. Avec Éric Nehoff, méchant Éric Nehoff du Figaro. Et avec Xavier Le Herpeur de 7e Obsession pour parler ce soir de bénures, d'éternité de Franz, de Victoria. Et du nouveau documentaire de Michael Moore dans Le Courrier de la Semaine. Eh bien, il fallait s'y attendre. Tony Hardman de Marraine A2 divise violemment les auditeurs dans le clan des pour. Il y a Hélène Klöckner qui nous dit que Tony Hardman est d'une richesse, d'une finesse et d'une originalité rare. Ou encore Thierry Astier de Dessinès Charpieux qui n'hésite pas à classer ce film au niveau des temps modernes de Chaplin. Il y a également Françoise Leclerc de La Baule qui parle d'un film puissant, superbement interprété. Ou encore Julien Demangeat de Bruxelles qui nous dit que ce film est une plongée au cœur de ce que le libéralisme a produit de pire et qui trouve légitime qu'un père fantasque, Xavier, se désole de voir sa fille se déshumaniser.
C'est bien ce qui me gêne.
Ou encore Jean de Thibault. Jean de Thibault, ce film fin remarquablement joué m'a fait pleurer de joie, et ce, avant d'entendre Monsieur Le Herpeur en faire une interprétation politique et sociale complètement fausse et manichéenne. Le problème, c'est que beaucoup, beaucoup d'auditeurs se rangent derrière Xavier Le Herpeur, comme Pascal Le Cossa de Paris, entièrement d'accord avec Xavier. Pour moi, le film est le portrait d'un père harceleur qui n'accepte pas que sa fille devienne adulte et prenne un chemin différent du sien. Ou encore Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence. Merci à Xavier Le Herpeur de s'être opposé à ce concert de louanges. Quant à rapprocher ce film des comédies d'Howard Hawks et de Black Edwards, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Bernard Barvire de Bordeaux, près de 3 heures interminables de gags à base de perruques, faux dentiers, coussins péteurs. Il faut être vraiment allemand pour avaler ça. Je souhaiterais, ajoute Bernard Barvire, je souhaiterais donc savoir si Monsieur Le Herpeur est libre, car j'envisage de l'épouser.
La question d'être
libre. Il y a
libre,
un gars au bout du rouleau.
Non, mais la question d'être libre importe peu. Oui, je suis ravi qu'on m'épouse.
Tu es d'accord?
Ah, mais oui, ça, le plus grand nombre.
Amaury Foucard, pardon?
Oui, bonjour. Oui, soyons mariage pour tous, quoi.
Amaury Foucard du blog Kino Ciné Blog. J'ai détesté cette espèce d'humour et pas de petite bourgeois, ces gags supposés transgressifs que l'on voit arriver à des kilomètres. Ou encore Martial Imbeau de Nancy, qui nous dit Tony Hardman, c'est un document de lourdeur dont on pourrait sauver quelques jolies séquences si on ne succombait pas à un profond ennui. Même sentiment de Sylvie Tardif, lourd, ennuyé, horriblement long. Ou encore Patrick Bartelat de Lyon, j'ai failli quitter la salle, tant j'ai trouvé ce film balourd qui ne provoque ni émotion ni le moindre rire. Et pour conclure, c'est Pascal Erlem qui habite Annecy et qui nous dit que c'est un film maniaco, mélancolique, je suis sorti de là quasi asthmatique, on ne voit pas où se situe l'espoir, même poétique, fictif, imaginaire. Je suis un peu déprimé par ce courrier, évidemment. Moi,
je le trouve très bien,
oui,
ce courrier.
Oui, ça ne m'étonne pas, non.
Moi, je suis comme toi, je suis d'accord. Un peu déprimé. C'est une histoire d'amour entre un père et une fille, avant tout. Donc,
mais oui, mais ça, c'est
une chose. Je ne vois pas en quoi ça s'explique.
Que Xavier n'a pas réussi à comprendre. Enfin, bref. Oui. Et puis, je reçois aussi depuis 15 jours, Eric, un flot ininterrompu de courriels que je ne peux pas citer tellement ils sont nombreux, qui te reprochent à propos du film Divine d'Ouda Benyamina d'avoir parlé de la noire et de la beurette au lieu de citer leur nom. Ils t'accusent d'avoir dérapé, te demandent de présenter tes excuses à ces deux comédiennes dont je rappelle quand même les noms, Déborah Lukumuena et Oulaya Amamra. Tu peux en quelques mots nous dire ce qui s'est passé?
Bah, d'abord, pour moi, ces deux mots ne sont pas des injures. Et ensuite, deux inconnus dans un premier film, j'ai beaucoup de mal à savoir leur nom. J'ai attendu jusqu'au Fils de Jean pour savoir que Delà d'Onchamp s'appelait comme ça. Mais si j'ai choqué certaines personnes, j'en suis désolé. Et je sais qui sont ces actrices. Il y en a une dont j'irai voir le deuxième film et l'autre, non.
Where to invade next? Préparez-vous à être envahi. C'est le nouveau documentaire de Michael Moore qui doit sa notoriété à ses films contre la malbouffe, les armes, le capitalisme, mais qui depuis une dizaine d'années, enfin en gros depuis Bowling for Columbine, nous a un peu, comment dire, déçus, en tout cas certains d'entre nous, ici partant du principe que depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont gagné aucune guerre. Michael Moore imagine l'Empire américain envahissant, avec lui hein, bien sûr, avec sa personne, envahissant l'Europe pour y voler ses meilleures idées. Alors en Italie, c'est les 8 semaines de congés payés. En France, dans le pays, dit-il, qui a inventé l'existentialisme et la fellation, ce sont les cantines gastronomiques et les cours d'éducation sexuelle. Il y a une grande scène où il va s'asseoir à la table des enfants à la cantine, où on lui sert évidemment... C'est du Bocuse, hein, comme on le sait dans toutes les cantines de France. En Allemagne, c'est la participation des travailleurs au conseil d'administration. Bon, je passe hein, en Finlande, les prisons qui ressemblent à des Club Med. Et donc, dans chaque pays, Michael Moore plante symboliquement, ironiquement, la bannière étoilée. C'est évidemment très naïf, sans que je sache toujours si c'est roublard ou pas, si c'est une vraie fausse naïveté. Par exemple, dans cette fameuse cantine normande, d'un simple collège français. On présente, il vient avec des canettes de coca qui montre à ses petits-enfants qui ne savent pas ce que c'est que le coca et qui surtout n'en veulent pas. Et qui surtout n'en veulent pas. C'est quand même bon. C'est un peu à l'image de ce film, donc préparez-vous à être envahi. Alain ?
Ah, moi, j'aime beaucoup parce que...
Ah, voilà.
C'est, d'ailleurs, j'aime presque tous les films de Michael Moore. Oui, je les aime tous. En plus, c'est mes idées, alors je ne vais quand même pas cracher sur mes idées. J'étais terriblement surpris d'entendre des gens dont je sais que c'est aussi leurs idées, dire « Oh là là, c'est pas bien, parce que il faut donner la parole à l'adversaire. » Mais il a suffisamment la parole. Donc, je trouve ça formidable, même ce film. Très, très amusant, plein de bonne humeur. On ressort de là, c'est une des rares occasions qu'on ait de s'amuser quand même.
Ah donc tu l'as pris comme une loufoquerie, non, pas alors, comme un documentaire. Donc.
Mon patriotisme a été un petit peu offensé parce que j'aime beaucoup... je trouve qu'en France, je trouve qu'il y a de plus belles choses en France qu'on mange de tout. Mais en dehors de ça, j'ai pas de reproche.
Éric ?
Mais ils se fichent de nous, là, j'espère, parce que c'est tellement...
Ah, mais je crois pas, justement. C'est toute la question. Je pense
c'est
pas
grave, parce qu'il est, il est idiot, alors, à ce moment-là. Parce que l'histoire des plateaux repas dans les cantines, mais ce serait peut-être un bon gag chez Jean-Pierre Mocky. Mais s'il y croit vraiment, c'est aberrant. Et c'est... Puis quand je vois ce gros bonhomme parler de la malbouffe et il pèse 150 kilos, ça me fait en plus rigoler. Ça,
moi, j'étais étonné que les petits sièges de la cantine tiennent.
Oui, ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est d'une naïveté. Il est idiot aussi. 8 semaines de vacances en Italie, ça c'est pour la Toussaint. Il n'a pas compris. Ils avaient 8 semaines de boulot. Alors on voit un flic qui passe son temps à faire du bodybuilding, à courir avec sa femme dans les rues de Rome. Et tout est comme ça.
Il rencontre même un président de je ne sais plus quel pays nordique. Il réussit à entrer.
En Islande, il y a 3 femmes d'entreprise très chic, très propres sur elles, qui jouent au golf, qui veulent que tout le monde soit solidaire. Alors lui, il opine du chef. Et quand on sait que ce type est milliardaire... et qu'il est là en train de donner des leçons à tout le monde. Moi, je ne lui ai jamais pardonné la façon dont il s'est comporté dans Columbine avec Charlton Heston, qui certes était le patron de l'Association pour les armes, mais qui était complètement gâteux. Et ça, il y a des choses qui sont dégueulasses et qu'on ne fait pas, même quand on est monsieur Michael.
À mon avis, il n'est pas très loin de ça non plus. Xavier.
Mais moi, je vais rejoindre Alain Rioux. Hein? C'est quand même beaucoup plus agréable que de rejoindre Eric Neuf.
Voilà. Tu ne veux plus te marier.
Sur les rives de cette naïveté gourmande, mais à laquelle il ne croit pas un instant, le postulat de départ...
Tu penses qu'il n'y croit pas ?
Mais non, le postulat de départ est une farce. Il fait semblant d'avoir été convoqué par tous les généraux de l'armée américaine qui lui disent « Bon, alors on a envahi tout Moyen-Orient, ça n'a rien donné, ça a foutu un bordel sans nom, on est très mauvais, on est très bête. Michael, toi, le seul homme de gauche aux États-Unis, sauve-nous, pitié, sauve-nous » Et le type
se dit « Je vais aller... » Il veut aussi dénoncer ce qui ne marche marche pas aux États-Unis.
Mais bien sûr,
le système de santé, la gastronomie.
Alors, il met en avant, et effectivement, il monte en épingle, mais il y a constamment un clin d'œil à la caméra qui fait qu'on ne peut pas prendre au premier degré cette démonstration. Et en même temps, les modèles sociaux, ils ne les inventent pas, ils sont réels. Alors, faire effectivement la France, l'école du goût, mais il y a néanmoins des écoles qui font des efforts pour que justement il y ait une meilleure cantine, une meilleure tradition culinaire, un meilleur enseignement du goût aux enfants. Donc, il met en avant des choses, il les grossit, il les manipule, mais en se tournant toujours la caméra en nous disant « Bon, c'est vrai, et en même temps, j'en fais des caisses, je vous remercie. » Pour finir, à la fin, par dire que tous ces grands élans sociaux que l'Amérique devrait vite adopter, parce qu'effectivement, il ne les possède pas, et il y en a qui sont indispensables, comme les semaines de congés payés, comme la possibilité d'avoir la sécurité sociale, ça n'existe pas aux États-Unis, et Obama a réussi à faire quelque chose qui risque d'être effacé par le prochain.
Tu vois que c'est sérieux.
Mais c'est sérieux parce qu'il a vraiment quelque chose à dire, et quand il dit que tout ça a failli exister aux États-Unis au 18e,
au 19e siècle,
que ça a existé, et que ça a détruit. Et alors moi, je suis désolé, on peut lui reprocher le coca, on peut lui reprocher, on peut rire sur le poids, la petite chaise qui ploie sous son poids. Il y a un moment extraordinaire de cinéma qui m'a vraiment, mais alors, saisi, c'est quand il rencontre le père d'une des victimes de ses enfants, plutôt de gauche, qui étaient réunis sur une île et qui ont été abattus systématiquement par un tueur d'extrême droite dans le Nord. Et il dit à cet homme, en bon américain qu'il est, Michael Moore, vous auriez aimé que votre fils ait une arme. Et le père répond face caméra, sans aucune haine, j'aurais aimé que mon fils nage.
Sophie.
Je ne sais pas s'il est naïf ou roublard, mais ce qui est sûr, c'est que...
C'est pas incompatible, hein.
C'est pas incompatible, mais ce qui est sûr, il est malin. Ça, c'est sûr qu'il est malin, parce qu'il se dépêche de dire, notamment, je crois au début, le premier pays, c'est l'Italie, après avoir dit que c'est merveilleux, que les Italiens, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont toujours l'air d'avoir fait l'amour, de venir de faire l'amour, ils ont du temps
pour... Ce qui n'est pas faux.
Ce qui est assez joliment dit. Et en même temps, il se dépêche de dire que quand même, c'est un pays où il y a beaucoup de chômage et où, oui, il a conscience d'être un peu simpliste quand même. Et donc, il se prémédite ça en disant, oui, bon, d'accord, on peut m'accuser d'être simpliste, mais moi, je suis là pour cueillir les fleurs, je suis pas là pour ramasser les mauvaises herbes. Donc à partir de là, il essaie effectivement de cueillir des fleurs, et même si je trouve que le procédé a un peu vieilli malgré tout, cette mise en scène de lui-même avec son bâton de pèlerin comme ça qui est en fait un drapeau, même si tout ça a un peu vieilli, effectivement c'est un peu répétitif, effectivement c'est un petit peu simpliste. Et en même temps, comme dit Xavier, il y a quand même des choses, moi, qui m'ont... Enfin, nous, Français, on a envie d'apprendre, enfin, de voir. En effet, en Norvège, le programme de réinsertion, c'est quand même assez formidable, même s'il passe sous silence d'autres choses. Au Portugal, la dépénalisation de la drogue et qui a apaisé les rapports raciaux entre les gens, je trouve que c'est à prendre. Et je trouve que pour nous, je suis un peu plus sceptique avec la Tunisie et la place de la femme, mais il est malin. Il dit à la jeune femme qui l'interroge, qu'est-ce que les États-Unis ont à apprendre de vous, Tunisienne, et elle répond la curiosité. Donc,
il arrive quand même sans découvrir que la spécificité quand même de ce pays, c'est le masque de la plume. C'est incroyable qu'il ait rien fait là-dessus.
C'est un film optimiste. Il faut quand même pas oublier qu'il est vitaminé au moins.
Il y aura des bonus dans le DVD d'autres pays. Il envie pas, par exemple, il va pas en Belgique.
Where to invade next. Préparez-vous à être envahi. C'est le nouveau documentaire de Michael Moore. Pas de réaction ici à Nancy sur ce film-ci.
Oui, bonsoir. À propos du repas dans les cantines, je pense qu'il a tout à fait raison, parce que moi, je suis dans un collège d'éducation prioritaire. On a eu hier de la tarte à la Mirabelle, faite par un pâtissier. On a un vrai cuisinier qui avait son restaurant dans la Meuse.
Qui
nous fait du thion de courgette. Il y a peut-être un jour dans la semaine qu'on remarque, parce que c'est un peu moins raffiné que les autres jours, mais effectivement, dans les établissements scolaires français, beaucoup d'établissements font des efforts. Et je doute que ce soit le cas dans les établissements scolaires publics américains.
Eh ben, merci pour ce témoignage qui plaide en faveur de Michael Moore. À propos des États-Unis, un mot qui va être pas trop long, à propos du remake de Ben-Hur, qui est cette fois signé Timur Bekmambetov, qui est le Kazakh d'Hollywood, à qui on doit notamment Abraham Lincoln, chasseur de vampires, grand moment de cinéma. Et là, c'est un péplum en 3D produit par la Paramount pour la bagatelle de 100 millions de dollars, bourré évidemment d'effets spéciaux, avec Jack Huston dans le rôle titre, et puis aussi avec Morgan Freeman. Les fins de mois sont difficiles, même là-bas. L'histoire est toujours aussi cuculapraline,
avec Judas Ben-Hur, que le puissant Messala réduit à l'esclavage et qui va revenir pour se venger. Même la course de chars m'a semblé, qui est tardive, hein, fastidieuse, avec, il faut dire, un excellent Rodrigo Santoro en Jésus-Christ. Et en Ponce Pilate, un Pilou Abzek qu'on ne peut pas oublier. J'ose pas vraiment dire que c'est un chemin de croix, mais je le pense. Xavier, tu aimais, je suis sûr. Bah,
bien sûr que c'est un chemin de croix, parce que effectivement, comme tu l'as rappelé, 100 millions de dollars au budget, à peine 20 millions de dollars en recettes aux États-Unis, c'est quand même un bide. Là, le char, il sort immédiatement de la piste.
Le remake datant de 59, hein, 1950.
Oui, de William Wyler, mais voilà, qui n'était pas le premier. Il y avait déjà eu deux films muets, et on n'oublie pas évidemment Robert Hossein qu'il avait mis en scène.
Comment oublier Ben-Hur?
Comment dépenser 100 millions de dollars pour faire un téléfilm aussi fauché et aussi moche? Ça, je pense que c'est quand même le premier exploit du film. C'est-à-dire que l'image est moche. La mise en scène est inexistante. On sent qu'il y avait trois caméras sur le décor et qu'on a essayé au montage de donner un peu de nervosité et de tension que n'ont jamais les deux acteurs principaux qui sont très mignons. On a l'impression que le rasoir à barbe avait déjà été inventé à l'époque parce qu'ils ont une petite barbe de trois jours intacte du début jusqu'à la fin. Quelles que soient les épreuves, quand même.
Mais ça existait,
Bien sûr que ça existait, bien évidemment. Il y a une scène de bacchanal à hurler de rire où ils sont tous en train de danser en agitant les bras. C'est assez consternant et on a l'impression de remplissage. On a l'impression que le scénario s'invente au fur et à mesure. C'est presque improvisé. Alors, ils ont changé par rapport à l'original. Maintenant, ils sont demi-frères, ils ont été élevés par la même mère. Donc, il y a un duel comme ça, il y a une rivalité oedipienne pratiquement dans l'histoire. Tout ça pour qu'à la fin, ils se réconcilient, c'est absolument ridicule. Il y a l'idée d'une pluie divine au moment où le Christ meurt en croix. Moi, je connaissais pas l'histoire. J'ai trouvé ça assez rigolo. Mais le problème, c'est qu'on voudrait beaucoup plus rire qu'on ne rit, en fait. C'est-à-dire que c'est une navette, mais qui s'arrête à la moitié du chemin. On s'ennuie.
Mais
c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, bon, c'est raté, mais c'est pas grave, on va se marrer, on va rigoler, on va regarder les garçons en toge. Enfin, tu vois, il y a toujours un moyen de se distraire, en jupe, être très courte, en là, jupe. Puis en plus, ils s'empoignent, ils s'adorent, donc c'est
cryptoqué, hein, tout
ça. Bah ouais, j'adore ça. Puis on s'emmerde, quoi, effectivement. Il y a une scène de bateau qui est attaqué, on ne comprend rien, c'est filmé n'importe comment. Et alors, la scène de char, moi, j'aurais aimé qu'il y ait un commentateur, quelqu'un qui nous dise, bon, alors là, Ben-Hur passe devant, mais ça, là, parce que on ne comprend rien. On voit bien des gens qui explosent en l'air, on voit bien des chevaux qui sont sauvés, on voit bien des espèces de garçons comme ça qui traversent pour sortir des cadavres, mais c'est moche, c'est bête. Alors déjà, le Ben-Hur de William Wyler n'était pas un chef-d'œuvre.
Je suis sûr que c'est mieux fait au Puy du Fou que
Mais certainement, moi je veux revoir Robert Hossein. Oui. Voilà.
Sophie.
Oui, c'est absolument épouvantable.
Vraiment,
c'est vrai, on n'y voit rien en plus. On ne voit rien, quoi. C'est très, très curieux. Il y a une espèce d'hystérisation de l'image qui fait que, et ça, merci les jeux vidéo, hein, non seulement il y a de la 3D, mais en plus on nous convoque dans l'image, on nous convoque dans la scène. Ce qui fait que plus rien n'est raconté. Alors, inutile de dire qu'il n'y a pas de stylisation, qu'il n'y a pas de poétisation, ça, évidemment.
On l'attendait pas.
Mais on attendait au moins quelque chose avec le kitsch d'un peu rigolo. Non, ça y est pas. Et en même temps, c'est du Ben-Hur expliqué au nul. Enfin, il y a aussi cette dimension quand même parce que on n'y voit rien. Ça va trop vite. Le montage est fait n'importe comment. On est convoqué comme ça sans arrêt dans l'image, encore une fois, de façon hystérique. La scène d'éventration des navires, elle est absolument horrible. Mais c'est horrible. Mais il n'y a pas moyen de s'échapper de cette horreur, quoi. Enfin, je suis désolée d'être aussi excessive, mais...
Non, tu n'es pas. Le film est en 3D, on peut être excessif, hein, Eric.
Mais où est-ce qu'il est allé chercher ces deux gars? On dirait deux acteurs de films porno qui n'ont pas de scène érotique à tourner, donc qui regardent la caméra avec désespoir.
C'est assez juste.
c'est du Marc Dorcel à la sauce romaine, une salade César. Tout est raté, tout est laid. Messala, il a deux expressions, avec ou sans barbe. Et je trouve que les chevaux jouent mieux qu'eux. Hein.
Les pauvres, moi, je les plains.
Et la course de char est complètement ratée. C'est une espèce de fouille intégrale. Et il y a des films qui n'en finissent jamais, mais celui-là, c'est un film qui ne commence pas du tout. Ouais. Et en plus, la 3D, comme d'habitude, les lunettes sont utiles seulement au moment du générique, quand le mot Paramount a l'air d'être à 3 km de la montagne. Sinon, rien.
Alain.
Non, mais Eric a complètement raison. Ce qui est le plus drôle, c'est quand même, c'est les acteurs. Ils ont tellement l'air de touristes qu'à la fin, on s'attend à ce qu'ils fassent des selfies. Cela dit, il faut quand même être honnête, c'est un film qui plaide en faveur du pardon. Alors, oubliez ce que j'ai dit.
Vous allez courir voir Ben-Hur, le film de Beckmann-Bethoff.
Après 15 films tous très différents, de Sous le sable à 8 femmes, de Ricky à Potiche, François Ozon, 48 ans, signe France, c'est en noir et blanc, avec de discrètes, très discrètes, mais très intelligentes touches de couleur. C'est en allemand, c'est adapté d'un film de Lubitsch, dont je n'ai envie de donner que le titre original, Brocken ou l'habit, parce que si je donne le titre français...
Ça donne un indice.
Ça, ouais. En plus qu'un indice même. Bon bref, vous trouverez. Adapté lui-même d'une pièce de Maurice Rostand, qui est le fils d'Edmond. Et on est là donc au lendemain de la Première Guerre mondiale. Adrien, c'est Pierre Ninet, un jeune poilu qui revient des tranchées, arrive dans une petite ville allemande. Il se rend dans le cimetière, sur la tombe d'un certain Franz, qui est mort au combat, et où chaque jour se recueille sa fiancée Anna. Elle s'appelle la comédienne Paula Baer. Je suis totalement amoureux. Une vraie révélation. Elle est toute jeune, hein, je crois qu'elle a à peine une vingtaine d'années. Elle est incroyable. Bref, fin de parenthèse. Adrien va bientôt raconter à Anna que Franz était son ami à Paris avant la guerre. Et les parents de Franz, non sans mal d'ailleurs, vont ouvrir leurs portes aux jeunes Français dans une ville où pourtant les vainqueurs sont détestés. « N'ayez pas peur, j'adore cette phrase, de nous rendre heureux », lui dit la mère de Franz. Quant à Anna, bah, elle craque, on peut la comprendre, pour le jeune Français. La suite et surtout la fin, évidemment... On ne peut pas la raconter. Heureusement d'ailleurs que Pierre Murat n'est pas là ce soir. D'ailleurs, dans le dossier de presse, il y a même un avertissement qui est rare. C'est merci aux journalistes de ne pas révéler le secret d'Adrien. Donc je compte sur vous, Franz, de François Ozon, Eric.
Le secret, on l'a deviné au bout de 10 minutes, hein, de toute façon. Oh, si. Même moi qui ne comprends jamais rien.
Ah, je ne suis pas d'accord.
On sent qu'il y a Anguille sous roche.
On le voit venir, oui.
On sent qu'il y a Congre sous roche. Mais pas à ce point-là, non, je ne suis pas d'accord.
Non, il n'y avait pas déjà un film qui s'appelait Franz, un film de Jacques Brel avec Barbara, non ?
Oui, absolument.
Ouais, il est gonflé. Et il a voulu faire son Jules et Jim avec Pierre Ninet, qui a un petit côté. Avec le noir et blanc, la guerre. Mais la chose est beaucoup trop léchée, beaucoup trop jolie, un peu désuète. Et ça manque de fougue, ça manque de force aussi. Et j'ai été gêné par la très charmante Paula Baer, tu vois, je dis pas la petite allemande, qui pour moi était le sosie de Tristan Bannon.
T'as pas craqué pour elle?
Non, parce que je pensais tout le temps à Dominique Strauss-Kahn.
Et
j'avais envie de dire à Ninet, mais vas-y mon vieux, saute-lui dessus. Et
non, mais c'est pas croyable. Mais c'est
pas croyable.
Non, le secret est trop vite.
Éventé,
oui. Il y a quand même des trucs, c'est très très démodé. Là, les passages du noir et blanc à la couleur, on l'a vu mille fois. Et là, comment est-ce qu'en 2016, on peut faire monter le héros dans un escalier, en haut, à la dernière marche, il y a un miroir, il se regarde, et là, il voit le visage de son copain mort.
C'est quand même insensé qu'on puisse trouver démodé un film sur la mort, qui remonte à la plus haute antiquité. Non, mais là, je suis quand même un petit peu surpris, Eric, parce que ce film fait penser beaucoup à un film que tu aimes, forcément, qui est La Chambre verte. La Chambre verte de Truffaut. C'est exactement, on trouve, une qualité de chagrin. Le chagrin devient dans ce film une espèce de diamant noir. C'est quelque chose de splendide. On est saisi. Il y a une véritable beauté de la douleur. Je dis jamais ça habituellement. J'aime pas tellement la douleur. Là, j'ai été, mais vraiment, j'ai trouvé ce film absolument formidable.
La figure du père allemand est bouleversante.
Depuis quelque temps, je suis sensible, rarement, mais à la grandeur. C'est un film qui a de la grandeur.
Xavier.
J'ai souvent été très sévère avec François Ozon et ça me permet d'être très enthousiaste quand vraiment, pour moi, il est à la hauteur de ce que j'estime qu'il est. C'est un très bon réalisateur. Je suis entièrement d'accord avec Alain Rioux. C'est un film éminemment moderne derrière son côté corseté qu'il utilise d'ailleurs très très bien parce que cette époque
que la presse lui a reproché à Venise.
Voilà,
beaucoup,
oui, l'absence d'émotion.
De manière, à mon avis, tout à fait
caricaturale. C'est un film qui ne va pas à l'émotion, qui ne veut pas aller à l'émotion, donc on ne peut pas lui reprocher d'échouer sur ce chemin-là. C'est quelqu'un qui réfléchit sur une époque où effectivement tout est tu et a fortiori le sentiment et derrière le sentiment tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'amour, la fougue, la douleur, la culpabilité. C'est un film qui n'est pas un whodunit, le secret qu'on le devine ou qu'on ne le devine pas à la vitesse d'Éric Neuf, on s'en fout un tout petit peu. C'est un film sur le mensonge, c'est un film sur le déni officiel de ces guerres. On est en 1918.
Et puis sur ces mois qui ont suivi la fin de la Grande Guerre.
On est en 19 et on est déjà en train d'écrire la mémoire officielle allemande et française. Et elles ne vont pas se rencontrer, bien évidemment. C'est donc immédiatement après, on a envoyé ces gamins aux martyrs. On se fout de les savoir complètement détruits. On sait qu'en 18, la France a filé de la morphine à tous les gamins qui revenaient de la guerre parce qu'ils étaient tellement foutus physiquement et moralement qu'on préférait les droguer vraiment au sens pur du terme pour qu'ils nous foutent la paix. Enfin, je veux dire, déjà, il y a cette idée-là. Ce gamin, ce corps malingre, ce corps douloureux, solaire et à la fois crépusculaire de Niné, remarquablement mis en scène globalement par Ozon, qui est à la fois un objet de fascination et déjà un objet de répulsion. Je trouve qu'on a deux niveaux de film. On a un niveau absolument de romanesque sombre, corseté, qui se tient sur lui-même et qui est bouleversant parce qu'il ne cherche pas à l'être. Et puis en même temps, on a un grand film sur le mensonge, sur la façon dont on envoie à la gamin. C'est quoi ce patriotisme débile que en 2016, on continue de nous servir à tout bout de champ et il y en a ras-le-bol. Voilà, moi je trouve que c'est un film sur la culpabilité, c'est un film sur la déchéance morale et sur la capacité ou l'incapacité à s'en sortir. Et comme toujours, chez Ozon, il y a deux films et la manière dont il les imbrique quand il y arrive est absolument remarquable.
Avec des scènes notamment très belles, quand par exemple Franz se met au violon, je trouve que c'est des moments poignants pour
ça, c'est très beau, oui,
avec le violon qui était celui de son fils.
Oui, alors moi je trouve vraiment le film magnifique, hein, je le trouve très très beau et je suis contente qu'Ozon se soit risqué sur un autre terrain parce que je trouve que du coup il a une œuvre qui est en effet.
Il l'avait fait une seule fois le film historique.
Oui, mais alors pas du tout sur ce terrain.
Angel.
Moi je trouve qu'il y a une très belle idée avec cette couleur dont vous avez parlé, mais qui est pas du tout, on l'a pas vu 100 fois, et dans Aymat par exemple il y a des touches de couleurs dans le noir et blanc, mais là c'est pas du tout ça, là c'est vraiment toutes les scènes qui tout à coup deviennent absolument en couleur, comme si vraiment le sang affluait, comme si ça redonnait vie chaque fois à la disparition de ce jeune homme qui est Franz. Et en effet, comme tu l'as dit Jérôme, avec cette magnifique scène où le père, qui dans un premier temps a rejeté Adrien, dans un deuxième temps
qui est
heureux,
était médecin,
et lui offre en effet ce violon en lui demandant de jouer, et c'est très beau parce que c'est vraiment l'objet de transfert et de consolation. Cela dit, vraiment j'aime le film, hein. J'ai quand même un
nuance.
Regret. Oui, il y a une nuance près qui est toute petite. Je trouve que c'est en effet un film qui est... Je regrette de ne pas avoir été plus bouleversée que ça, et je pense que c'est parce que François Ozon va chercher le film de genre, enfin le mélo et la reconstitution, et il n'a de cesse de l'amener sur son propre terrain, qui est un cinéma beaucoup plus secondaire, et un cinéma beaucoup plus narquois, et tout le film finalement joue sur cette façon d'essayer d'aller sur son terrain, qui en effet, comme tu l'as dit Xavier, est un cinéma où la vérité ne se donne jamais, où tout est enfoui, et en effet c'est un film sur le mensonge, sur l'imposture, sur le masque, etc., etc. Mais je trouve que le chemin qu'il prend pour aller sur son terrain est un chouillage en tournée, que ça épuise un petit peu le récit et que la narration se fatigue elle-même. Voilà, c'est le seul
regret. Franz, le nouveau film de François Ozon. Une réaction encore dans cet opéra national de Lorraine.
Moi, j'ai vu l'avant-première à Nancy la semaine dernière, donc avec toute l'équipe du film. Je vous avoue que la première partie du film, je me suis enquiquinée à son souffleur. Dès l'instant où...
Qu'est-ce que vous appelez la première partie du film?
Eh ben, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'action bascule. Monsieur Neuf voit venir ça de loin. Je sentais quelque chose de pas net, mais je savais pas que c'était ça. Et après, donc effectivement, il y a des messages importants, intéressants qui passent. On voit encore la haine des deux côtés du Rhin éclater, quoi. C'est effarant. Moi, je trouve aussi que l'héroïne qui est jouée par Paola Bär mériterait un procès en canonisation parce qu'elle n'arrête pas de pardonner et de pardonner. Elle s'en prend plein la figure.
Merci pour votre intervention. Victoria, un film de Justine Triet, à qui on doit notamment La bataille de Solferino, qui a fait l'ouverture de la semaine de la critique à Cannes, chronique d'une femme plutôt au bord de la crise de nerfs, je pense que le mot n'est pas faible, avec une épatante Virginie Efira dans le rôle d'une avocate pénaliste en panne sentimentale et mère célibataire, qui retrouve à l'occasion d'un mariage son ami Vincent, c'est Melville Poupeau, et un ex-dealer qu'elle a sorti d'affaires, c'est Sam, joué par Vincent Lacoste. Le problème, c'est que le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre et de viol par sa compagne. Victoria va donc devoir le défendre, tout en embauchant Sam comme babysitter. Une comédie burlesque, mais volontairement, clairement burlesque, avec aussi l'excellent Laurent Poitrenaud. Et je le disais, une Virginie Efira assez impressionnante. Un film qui pousse jusqu'à l'absurde une logique qui n'en est pas une, au point de convoquer d'ailleurs au tribunal, ça j'ai bien aimé ça, un dalmatien et un singe en qualité de témoin. Alain,
Il y a des choses vraiment très très bien dans le film, parce que je vous avouerai...
Tu veux dire que tu n'as pas aimé l'ensemble ?
Ah, j'ai bien aimé, si. Je vous avouerai que je ne déteste pas les paradoxes. Et il y a à peu près un paradoxe par plan, c'est formidable. Effectivement, le singe témoin, c'est très très bien.
C'est pas un singe, c'est une guenon.
Oh.
Ah oui, elle s'appelle Daisy. Ah, mon
féminisme, c'est très important.
On aura du courrier la semaine prochaine.
Je demande pardon,
c'est vrai. La confusion.
C'est
vrai,
oui. Alors,
c'est une guenon.
Mais il y a des surprises. C'est très très amusant, c'est très bien. Si j'avais une réserve, je ne sais pas si j'ai raison, je le trouve quand même un petit peu narcissique. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas tellement. Ça manque d'universalité alors que ça pouvait en avoir.
Éric ?
Ah bah c'est déjà bien. C'est un film sur la rencontre d'une petite culotte et d'un dalmatien. Il faut le faire. Et elle se débrouille très bien. Mais en plus, Virginie Efira est en train de devenir l'actrice française qui peut tout faire.
De film en film.
Elle peut jouer des comédies, des rôles dramatiques. Elle occupe l'écran. Elle est assez belle. Elle bouffe ses partenaires. Melville Poupeau joue le rôle d'un type un peu falot comme d'habitude, mais il le fait bien. Vincent Lacoste est parfait en ancien dealer qui devient babysitter. Cela dit, Justine Triet, qui avait déjà réalisé la bataille de Solferino, où il y avait plein de choses, plein de promesses.
C'était moins trépidant que Victoria.
C'est presque trop trépidant parce qu'on voit qu'elle n'a pas tardé à apprendre toutes les ficelles des téléfilms français comiques. Et c'est ça que je regrette un petit peu. On s'y perd au bout d'un moment. Et elle a vraiment un problème de babysitter parce que tous ces films traitent du sujet. Comment vais-je faire garder mes enfants? Et les gens qui iront voir le film vont trouver aussi que c'est difficile de prendre des babysitters pour aller voir ça.
Oui, on ne leur conseillera pas de lire le livre de Leïla Slimani dont on parlait la semaine dernière à Nancy. Cela dit, dans la presse, moi j'ai lu... Alors, c'est peut-être un peu excessif. Dans certains journaux, on compare Justine Triet à Billy Wilder, à Black Edwards et à Howard Hawks.
J'ai vu ça.
Ah, c'est peut-être sous ta plume, d'ailleurs. Non.
Je parle d'un personnage à la Howard Hawks,
peut-être,
en effet.
Enfin, entre autres, parce que j'ai lu ça
d'une,
hier
d'une
aussi.
Comédienne, parce que je trouve qu'elle elle a cette... Moi, j'adore le film. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il est... oui, en effet, c'est la suite d'une certaine manière de la bataille de Solferino, parce que ces petites gamines là qui ont l'air de passagers clandestines ou d'un naufrage qui serait celui des parents, je trouve que elles sont en second plan et c'est pourtant très fort. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité dans le film, il y a beaucoup de finesse parce que ça repose sur un personnage très juste, sur un personnage très bien construit. C'est-à-dire que dans ce genre de comédie en général, les personnages sont un peu fous et tout. Elle, au contraire, elle est hyper rationnelle, elle analyse tout. Attends, elle va pas bien.
Elle est complètement timbrée quand même.
Non, justement. Mais ce qui est bien, c'est que elle va pas bien, elle est en pleine débâcle, en pleine déroute, mais elle n'a de cesse, évidemment qu'elle est névrosée, mais comme nous tous, mais elle n'a de cesse...
Comment ça, comme nous tous ?
Comme nous tous, absolument. Elle n'a de cesse d'essayer d'aller mieux, et ça c'est génial, alors elle va voir le psy, elle va voir un acupuncteur, elle va voir...
Comme nous tous.
Et elle essaie...
Un marabout.
Et un marabout. Et elle essaie d'aller mieux, et elle essaie de manière rationnelle d'aller mieux. Et elle est sans arrêt rattrapée par un monde extérieur qui est complètement irrationnel, qui la déborde de son chaos, etc. Et l'humour, et je trouve l'efficacité de la comédie, naît justement de cette opposition entre cette femme qui essaie d'être normale et le monde qui la rattrape, parce qu'en effet, ce procès où on convoque une guenon et un dalmatien, c'est quand même...
Non, c'est normal.
C'est comme ça, voilà, ça n'a rien de normal. Donc, tu vois, il y a cette espèce de rencontre complètement insolite. Et alors en plus, en effet, Virginie Efira est vraiment très très bonne. Et quand même, Vincent Lacoste, qui trimballe quelque chose de cool et de désinvolte, là, il a une capacité à être grave dans l'amour. Moi, j'ai trouvé très, très belle.
Et Laurent Poitrenaud, que j'ai aussi beaucoup aimé. Xavier.
Alain, qui aime les paradoxes, il va apprécier celui-ci. C'est un film qui me réjouit et me déçoit complètement. Réjouit parce que j'adore Virginie Efira. Depuis très vite, dès le début, quand elle a abandonné la Nouvelle Star.
À l'époque de la télé?
Non, mais juste après La Nouvelle Star, elle avait produit avec M6 une série très drôle où elle jouait son propre rôle, d'ailleurs. Ouais. Elle jouait Virginie Efira, qui essayait de s'en sortir après la casserole de La Nouvelle Star et de faire le métier pour lequel elle avait...
Pourquoi la casserole de La Nouvelle Star?
Parce qu'elle sentait bien qu'on allait lui dire qu'elle était l'éternelle présentatrice de La Nouvelle Star. Et elle avait immédiatement exorcisé tout ça à travers une série très drôle où elle jouait Virginie Efira, qui essayait d'avoir des rôles, des castings, parce qu'elle était comédienne belge à l'époque. Et on lui disait, La Nouvelle Star, formidable.
Elle est toujours comédienne belge. Hein.
Elle est toujours comédienne belge, mais elle revient de loin et elle a eu tout de suite cette lucidité, cet humour, ce sens de l'autoparodie qui fait que... qui font, pardon, qu'aujourd'hui encore, et je suis ravi que vous l'ayez tous souligné, il y a des gens qui me disent, ah, oh, mais elle est formidable, mais ça fait 10 ans qu'on sait qu'elle est formidable, qu'elle joue avec son âge, qu'elle joue avec un corps qui n'est pas un corps svelte, mais qui est un corps qui existe, qui est un corps séduisant, qui est un corps plein de charme, elle est drôle, mais non, mais je veux dire, elle fait pas 8 kilos, c'est pas, voilà, c'est pas un reproche, oh là là, moi non plus. Mais en revanche, moi je suis pas d'accord avec vous, le film.
Non plus, tu fais pas 8 kilos.
Mais c'est ce que je viens de dire, alors, hein, je te signale, c'est pas la peine de m'humilier devant près de 1000 personnes à Nancy. Bon, mais le film est pas bon, le film force constamment le trait. Mais
on
voit, mais Eric a presque eu raison pour une fois, c'est-à-dire qu'on voit Justine Triet qui rentre elle rentre tout le temps dans le film, elle manipule toujours les choses, elle veut mettre de l'absurde, de l'insolite, de l'insolent, mais elle va pas jusqu'au bout, elle laisse les choses en friche, elle veut donner du rythme, mais c'est du rythme qui chaote, on a l'impression que le film se reboote constamment. Ah tiens, je vais mettre un chien dans une cour d'assises, mais il faut en faire quelque chose de son chien. Mais elle est pas Black Edwards, elle est obligée de mettre des personnages, des situations, le meurtre dont serait éventuellement coupable Valérie Boupeau, elle sait pas l'écrire, elle en fait rien. Alors on voit Justine Triet tout le temps, par personnage interposé, par trouvaille scénaristique, par absence de mise en scène, parce qu'en termes de mise en scène, le découpage est quand même plus proche du téléfilm. Et au bout du monde, je suis dit, il se passe rien, mais comme dans la bataille de Solferino, quoi. C'est une succession d'idées théoriques qui ne sont jamais incarnées, ni par la mise en scène, ni par une idée de direction d'acteur.
Victoria de Justine Triet. Bon, allez, un film, j'ai du mal à en parler, parce qu'il est vraiment étrange. Il fait 2 heures, il faut le savoir. Il s'appelle Éternité. Il est signé d'un cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tran Anh Hung, qui est d'origine vietnamienne. Et c'est lui, vous savez, qui a fait L'odeur de la papaye verte, qui est un film magnifique. Et là, c'est adapté du roman d'Alice Fernet, L'élégance des veuves, avec une distribution on ne peut plus fastueuse. Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent, Jérémy Régnier, Pierre de la Donchamp, à peine sorti du fils de Jean de Lioret. Et je dis étrange parce que il n'y a presque pas de dialogue. Pour l'essentiel, c'est une voix off et féminine qui déroule l'exacte chronologie de l'histoire, soit un siècle de la fin du 19e à la fin du 20e d'une famille bourgeoise, très bourgeoise, où donc les naissances succèdent aux morts, les mariages aux enterrements, les guerres aux guerres, et où on voit la toute jeune Audrey Tautou devenir une très très vieille dame. Donc c'est une succession de tableaux vivants, où les comédiens se regardent le plus souvent sans se parler. Alors évidemment, j'ai pensé au mot célèbre de Woody Allen, qui disait que l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Et là, il n'avait pas totalement tort, même si, le film propose une expérience assez inédite, un peu entre le rêve éveillé et l'ennui raffiné. Et puis, pour le coup, en 2 heures, on sent vraiment le temps passer. Et c'était le but exact de ce cinéaste, Xavier.
C'est facile de le démonter, j'aurais pu le faire.
Non, mais je ne l'ai pas démonté, vraiment. Justement.
Non, mais
je suis sincère.
Je ne dis pas que tu l'as fait.
Je dis que c'est étrange et je ne sais pas quoi en dire.
Parce que
ni en faire.
Je te donne d'autant plus raison que sur le papier, un film où on nous propose une voix off omniprésente que je trouve toujours être un tout petit peu une facilité au cinéma, qui remplit l'espace.
Surtout adapté d'un roman.
Voilà, de musique pour essayer de nous donner quelque chose. Et en plus, un film avec Mélanie Laurent. J'y allais pas avec gaieté.
Ça veut dire quoi, ça, Xavier?
Mais ça veut dire quoi? Que c'est pas la meilleure actrice du monde et qu'elle est horripilante. Donc voilà, c'est tout. Mais j'ai le droit d'avoir des a priori, c'est quand même dingue, ça. Et j'aime énormément le film de Tran Anh Hung qui m'a emporté. D'abord, j'aime chez ce cinéaste sa capacité à ne pas rester effectivement dans La verticale de l'été ou dans L'odeur de la papaye verte, même s'il y revient parce que c'est quelque chose de très profond chez lui. Mais Cyclo, qui était un peu là avec Tony Leung, était, moi, je trouve, assez formidable. La balade de l'impossible, d'après Murakami, qui était un très joli film.
Parlons de Éternité.
Voilà, et ce film, je l'ai aimé parce que c'est un parti pris, c'est un geste artistique assumé. Et quand on l'assume, ça permet de le travailler jusqu'au bout. Et moi, il m'a emporté. Il m'a emporté dans sa fougue. Et je trouve que, mine de rien, réduire.
Tu ne t'es pas du tout ennuyé.
Mais pas du tout. Réduire.
Non, mais les yeux dans les yeux.
Non,
comme
mais,
dit
vraiment,
Jérôme.
Mais vraiment. Non. Je te le dirai. Hein, j'ai dit du mal de Victoria que tout le monde adore. Donc imagine bien à quel point je ne suis pas bien pensant. Mais ce film m'a touché, m'a bouleversé. Et subitement, en n'explicitant rien à travers le dialogue, j'ai trouvé que ce film-là, peut-être me suis-je trompé, parlait de quelque chose qu'on avait rarement vu au cinéma, qui est le déterminisme social de la bourgeoisie et la violence qui est faite aux femmes à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on parle de déterminisme social au cinéma, c'est souvent, ben oui, j'ai fini dans une banlieue triste, donc obligatoirement. Non, la femme bourgeoise à qui on demande de ne rien faire d'autre que des enfants, et qui les voit, partir, qui les voit mourir, qui les voit s'affranchir et qui restent seules. Le film m'a bouleversé justement parce qu'elles ont un rapport à la vie, non seulement qu'elles donnent, mais qu'on leur arrache violemment. Et je trouve que le film, derrière son côté apprêté, son côté musical, son geste un tout petit peu effectivement éthéré comme ça de cinéma, dit quelque chose sur cette violence-là, sur ce sens de la prémonition maternelle qui sait qu'il va se passer quelque chose.
Mais ça ne lui interdisait pas de faire parler ses comédiens ensemble, par
mais
exemple.
Mais la preuve que si, enfin, on s'en fout qu'il... Mais ça passe. Ça passe par la musique, ça passe par la mise en scène, ça passe par la manière dont la caméra...
Et la grammaire.
Mais voilà. Eh ben ouais. Eh ben de temps en temps, c'est bien de se rappeler que le cinéma, c'est pas de la radio filmée.
Eric.
Comme Victoria.
Ah bah c'est beau, c'est très beau, mais c'est un film poli dans les deux sens du terme. C'est très bien élevé.
Pas tant que ça.
Et très, très lisse, tout le temps. C'est magnifique. Mais on voit bien ce qu'il a voulu faire un peu du...
Ah, il y a des plans de toute beauté.
Du Terrence Malick de province.
D'abord, on ne dit pas province, on dit région. Ah, voilà. Et attendre d'être annoncé pour le dire, franchement.
Mais ça n'est pas péjoratif. Et on peut faire...
Terrence Malick de province.
Pas du tout. On peut faire Tree
Madame,
of Life en
Charentaise.
C'est Tree of Life en Charentaise. Dans cette grande maison, très statique, où les gens cavalent dans les couloirs. On sent qu'ils ont très peur de renverser un bibelot parce qu'il y a des petites choses partout. Et le film est un petit peu comme ça, je trouve. Bizarrement, on voit pas la durée.
On la sent, hein.
On la sent, mais on voit pas les époques, on comprend pas qui sont les enfants à qui ils appartiennent, etc. Et par moments, hélas, ça fait presque penser à cette publicité pour des assurances qui passait à un moment donné, où on voyait un long travelling avec les saisons qui déroulaient et une musique à l'accordéon. Mais c'est beau, mais il faut le voir en famille et aller au frigo de temps en temps pour...
Alain?
Ben écoute, Jérôme, par rapport à ce que tu as dit, c'est d'une puissante originalité, c'est-à-dire que tu nous rappelais que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Là, c'est long dès le début. C'est quelque chose d'effroyable, parce qu'en plus, c'est entièrement filmé au ralenti. Il devrait le mettre, d'ailleurs, sur l'affiche. L'éternité au ralenti. Voilà un concept entièrement
neuf.
Vous imaginez? Alors, ça ne dure
non,
que
c'est
deux
pas en 3D,
heures.
Imbécile.
Ça ne dure que deux heures, mais on a l'impression que ça dure deux siècles. Vous savez, un jour, j'ai rêvé que j'avais un roman, que je lisais un roman, et au moment de tourner la page, elle était extraordinairement lourde. Et puis, j'arrivais pas à la tourner, alors je le relisais. Et je me suis réveillé, et j'étais dans le film. J'étais en train de regarder l'éternité de Tran Bang.
Sophie.
Et bien moi, ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est un film dingue. C'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il faut pas faire normalement au cinéma. La voix off, en effet, la musique sans arrêt, des ralentis, des enfants ricorés. C'est vrai, des images d'Épinal, comme ça, du bonheur, comme on la voit dans des clips, des ralentis, pas de dialogue, pas d'histoire, surtout pas d'histoire. Il y a que des naissances et des morts.
Mais
et ben,
en dépit,
et malgré tout ça, malgré tout ce qu'a priori on ne doit pas faire, c'est vertigineux, quoi. Moi, j'ai été hypnotisée. Je pense qu'il y a une telle détermination dans sa façon d'aller jusqu'au bout de ça.
Je pense qu'il va jusqu'au bout de ce qu'il veut démontrer.
Il est tellement obstiné là-dedans.
Alerter, en effet. Il faut prévenir les spectateurs, c'est tout.
Non, alors, il faut alerter les spectateurs, mais il faut leur dire aussi que ce film, il est dingue parce que ça devient énigmatique. Tout est à la surface comme ça et tout à coup, on est devant un truc complètement énigmatique. Il y a une scène dont je ne dirai pas comment elle se termine, mais où la mer aussi est d'un bleu sur bleu, le ciel est d'un bleu incroyable. C'est l'image du bonheur et tout. Et là, tout à coup, ce qui se passe, c'est d'une cruauté et on se dit mais il est fou ce film, il est magnifique et il arrive je trouve à saisir le temps qui passe mais pas pour nous spectateurs, non vraiment je trouve que c'est un beau film.
Éternité, le film de Tran Anh-Hung et on termine avec, même vite parce que le temps passe en bonne compagnie et il passe trop vite, Voir du pays qui était au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard, le film des sœurs Delphine et Muriel Coulin, d'après le roman de la première, paru chez Grasset. Le film commence à Chypre, sous le soleil de l'été. On est dans un hôtel 5 étoiles, où les touristes font la fête, débarquent alors dans ce petit paradis. Et la scène, il faut dire, est très insolite. Une section de soldats français en treillis, dont Marine, c'est Soko, que j'adore, et Aurore, c'est Ariane Labed, deux militaires de 25 ans, copines d'enfance, qui reviennent d'Afghanistan. Elles ont connu, évidemment, les routes minées, les déluges de feu, les embuscades dans les montagnes, et surtout la mort de leurs camarades à Chypre. Donc l'armée, et ça je ne le savais pas avant de voir ce film, l'armée française offre pendant 3 jours à ses soldats un sas de décompression, au sens propre, une cellule d'aide psychologique pour évacuer le stress, Ils sont là au milieu des vacanciers en string et ils doivent aussi quand même raconter ce qu'ils ont vécu et regarder sur un écran en numérique, évidemment, les pires scènes de guerre qu'ils ont connues. Alors, il y a une seconde partie du film qui est une échappée dans l'île, je dirais presque vers la fiction, mais pour le reste, ça ressemble quand même beaucoup à un documentaire, non?
Oui, mais d'ailleurs, Sophie. Myriel Coulin, qui est la sœur de Delphine, puisque c'est deux sœurs, tu l'as dit, elle vient du documentaire. Et ce qui est intéressant à l'association de ces deux sœurs, c'est que l'une, on a l'impression qu'elle a écrit le bouquin, Delphine, Le Voir du Pays, sur des faits réels, mais c'est quand même du roman. Et la sœur qui vient du documentaire, à toutes les deux, avec 17 filles, c'était déjà ça, c'était un fait divers qu'elles arrivaient, alors elles mettent un peu de fiction. Alors, moi, je trouve le film très intelligent, très fin, un peu hybride, parce qu'en effet, au début, c'est le retour de guerre, et c'est vraiment le traumatisme, le sas, etc. Et puis dans un deuxième temps, c'est vraiment la place des femmes là-dedans, et puis avec cette violence qui est emmagasinée, qui fait que finalement tout homme a besoin d'un ennemi. C'est assez fort ça, l'idée qu'il faut qu'il y ait un ennemi. Alors c'est l'Afghan, quand c'est pas l'Afghan, c'est le touriste, quand c'est pas le touriste, c'est le chypriote, et finalement c'est la femme, etc. Donc ça c'est assez fort, mais le film, même si je le trouve pas mal, je trouve que le film est un chouïa démonstratif. Elles le sentent, elles essaient de semer comme ça des fausses pistes. Et en même temps, ces fausses pistes, elles mènent à rien. Bon, mais ça reste un film d'une grande richesse.
Avec ces deux comédiennes, Soko et Ariane Labette, qui sont vraiment bien, Xavier.
Moi, c'est vraiment un film que j'ai envie de défendre. Je suis tout à fait d'accord avec Sophie. J'avais adoré 17 filles. J'aime beaucoup leur travail, effectivement, la manière de partir du réel, de passer par le romanesque, de revenir par un travail documentaire pour réinventer aussi la distance que permet la fiction sur cette histoire-là. Je trouve que le cinéma est sollicité souvent de manière impressionnante, avec pourtant zéro moyen quand on fait reconstituer à ces gamins qui portent des énormes lunettes 3D sur les oreilles avec projection derrière eux d'une animation digne d'un jeu vidéo. L'abstraction de la guerre, c'est quand même un grand sujet très contemporain. C'est-à-dire cette guerre, qui est toujours abstraite, qui est toujours vue de l'extérieur. Les guerres propres, ça c'est la grande et horrible invention du 21e siècle. Donc elle travaille éminemment de matériaux avec toujours, ce qu'a très bien dit Sophie, depuis 17 filles, le corps de la femme dans un corps constitué. Mais elles ont droit d'avoir ce sujet-là.
Les femmes de l'armée, elles sont pas quand même.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles partent toujours d'un corps où on asexualise les filles, la scolarité, le lycée, puis à un moment où le corps d'une fille, c'est pas le corps d'un garçon, c'est pas le même objet de séduction, c'est pas le même objet de pouvoir. Et là, effectivement, et c'est pour ça que la fin est extrêmement intéressante, quand les corps sont enfin débarrassés de ces treillis qui les asexualisent, eh bien la femme reprend malheureusement, effectivement, toujours son rôle de bouc émissaire et de victime. Elles suivent toujours cette démonstration-là et elles le font avec éminemment de fiction et beaucoup de cinéma.
Éric.
L'armée réussit au cinéma français. Depuis quelque temps, il y avait Les combattants, Ni le ciel ni la terre, et ça, qui est quand même très original comme sujet. Parce que moi, je connais un tas de gens, d'hommes, dont le service militaire est leur meilleur souvenir.
Pas moi.
Non, mais toi, non. On comprend. Tu n'aimes pas les dortoirs.
C'est pas le pire souvenir.
Et pourquoi des filles s'engagent dans l'armée? Qu'est-ce que ça leur fait? Est-ce que, quand elles reviennent dans cette espèce d'hôtel 5 étoiles, qui visiblement est encore pire qu'être en poste en Afghanistan. Ouais. Peut-être.
Oh,
Éric a raison, il y a quelque chose de ça.
Ce sas de décompression, il devrait les balancer dans la campagne, dans la Creuse, dans cette espèce
bizarre,
d'endroit
de. Aucun de ces gamins pourra s'offrir un hôtel pareil. Donc c'est violent aussi.
C'est violent. Et les Américains ont Catherine Bigelow, et nous, on a ces deux sœurs-là, les sœurs Coulin. C'est pas si mal parce qu'elles ont quelque chose une force, un côté physique. Voir des filles en treillis et que ce ne soit pas ridicule, les voir au milieu de tous ces types et ne pas être écrabouillé. Les deux actrices sont fabuleuses. Moi, j'ai un gros faible pour Ariane Labed, qui est magnifique, et je suis prêt à m'engager si elle est dans l'armée avec moi.
Mais quand on voit ce que va être Soko aussi dans La danseuse dans quelques semaines, on est assez impressionné par le parcours de cette comédienne. Mais moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est cette manière qu'on a maintenant de faire ces cellules psychologiques pour des militaires, exactement comme on les fait
pour des victimes d'attentats
ou des victimes de.
Mais il y a 50 choses qui sont frappantes dans ce film. C'est un sujet absolument formidable. C'est très bien de la part de ces deux auteurs que d'avoir su. Moi, j'ai une véhémence naturelle, mais j'ai été content de la trouver là-dedans. Elles ont su regarder. Ça, c'est des personnes qui savent regarder autour d'elles. C'est un sujet extraordinaire parce que, d'abord, c'est être dans l'armée aujourd'hui, c'est accepter de défendre la liberté, c'est ce qu'elles font, en se soumettant à une discipline épouvantable, de perdre totalement sa liberté pour défendre celle des autres. Et ça, on ne le dit, on les salue pas assez suffisamment, il faut vraiment le dire. Mais en plus, c'est sensible, c'est fait, c'est des gamines, comme tu l'as dit, c'est vraiment des gamines. Elles ont 20 ans, c'est-à-dire, elles n'ont aucune espèce d'expérience de la vie, et on leur demande de juger de la mort, c'est quelque chose de terrifiant. Et c'est montré d'une façon simple, directe, très forte, très bien, sans aucune emphase. J'admire ce film.
Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin. Et le temps est venu des conseils de fin d'émission. On va commencer avec Alain Rioux.
Alors, un peu de folie, si vous voulez bien. La folie, alors, à la Cinémathèque de Toulouse, c'est une cinémathèque que j'aime beaucoup, comme vous savez, qui travaille très bien. Il y a
travaille très bien.
Un programme Savant Fou.
Travaille mal, oui.
Alors, sur les Savants Fous, on va trouver à la fois le Jerry Lewis, bien entendu, d'après Hyde et Jekyll, et par exemple Les yeux sans visage de Franju. Alors, y a un cinéma à Paris qui s'appelle la Filmothèque du Quartier Latin qui sort, et là c'est encore une histoire de savant fou qui ressort ce film extraordinaire qui est en quatrième vitesse d'Aldrich. Et enfin, la Cinémathèque française rend hommage à von Sternberg, qui est vraiment un fou furieux. Mais allez voir L'Impératrice Rouge, mais c'est génial.
Le conseil d'Éric.
Comancheria, un petit polar bien teigneux de David Mackenzie, un Écossais qui connaît le Texas mieux que les Américains. C'est l'histoire de deux frères qui braquent des banques parce que leur mère vient de mourir et la banque a hypothéqué la ferme familiale. Ils sont poursuivis par un Texas Ranger joué par Jeff Bridges, qui a maintenant une tête de poisson-chat et qui a un humour. C'est sa dernière affaire.
C'est très drôle.
Et il connaît si bien les truands qu'ils pensent exactement ce qu'ils vont faire avant eux. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai dit petit polar, grand film.
Mon conseil est un petit film, mais qui m'a bien fait sourire, qui est Monsieur Hov du Suédois Hannes Holm, où on voit un veuf qui a tout essayé pour se suicider, la corde, le pot d'échappement, le train, qui emmerde évidemment ses voisins, beaucoup plus que Tati Daniel, et qui va être métamorphosé grâce à une famille d'Iraniens. Et dans le rôle, c'est Rolf Lassgaard, qui est très bien, il a incarné plein de fois l'inspecteur Valander de Mankell à la télé. Et puis en prime, il y a une charge salutaire contre les cravateux qui m'a bien plu, puis un dilemme exclusivement suédois, est-ce qu'il faut être Volvo ou Saab? Grande question devant l'éternel.
Qui donne des scènes truculentes et savoureuses. Alors moi, je suis comme ça, j'aime beaucoup le film.
Ah oui. Le conseil de Xavier.
Eh bien, le deuxième film d'un cinéaste brésilien que j'aime beaucoup, Gabriel Mascaro, on l'avait découvert avec Ventos de Agosto en 2014. Il signe Rodeo et c'est un petit bijou. C'est un film qui m'a enthousiasmé. C'est le portrait d'Irema. Irema, il travaille dans une espèce de rodéo très bizarre, très étrange, où on coupe la queue des taureaux, mais pas celle à laquelle on pense, celle qui est à l'arrière. Et lui, son travail, c'est de la peigner et de la talquer pour que justement les hommes à cheval puissent attraper et couper cette queue.
Les hommes à chevaux.
Ça ceux qui, enfin, les cavaliers.
Ça s'appelle un cavalier.
Et ce type-là, le soir,
les hommes à chevaux,
rentrait dans son dortoir, parce que tous les types qui font le même boulot que lui vivent dans un dortoir, se rêve créateur de mode et fait des robes. Et c'est un film sur le rêve
social. Ce rêve de la queue derrière, c'est quand même quelque chose de magnifique.
À la réalité, à la concrétude, remarquablement.
À la concrétude.
À la concrétude. Le concret, le rapport au concret.
D'accord. Je croyais que tu parlais comme Ségolène Royal.
Moi, je m'en fous, de toute façon. Rodeo est un grand film et Gabriel Mascaro, un cinéaste à surveiller. Voilà.
Le conseil de Sophie.
Clash de Mohamed Diab, qui est un film étonnant parce que ça
on
se passe dans un...
On va en parler dimanche prochain.
Alors je dis très peu de choses, sinon que ça se passe dans un fourgon cellulaire
au Caire,
en Égypte en 2013, donc bien après la révolution, après la destitution de Morsi. Et ce qui est très beau dans le film, c'est que c'est pas un film politique, c'est un film sur les hommes et les femmes, et ça c'est très fort.
Et c'est un film totalement...
Qui se passe entièrement...
Il faut pas être claustrophobe. Hein.
Ça se passe entièrement dans ce huis clos du fourgon.
Et on en parlera dimanche prochain dans Le Masque. Merci beaucoup Sophie Avon, Xavier Le Herpeur, Alain Rioux et Éric Nehoff pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selamé. Ce soir... À Nancy, à l'Opéra National de Lorraine, à la technique, il y avait Bernard Quentin, Adrien Gaza, Olivia Branger, Benjamin Perru, Mathieu Leroy et Franck Malabry. Merci aussi à toute l'équipe de l'Opéra National de Lorraine. Merci au public, surtout venu ce soir. La réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, il aura lieu le jeudi 22 septembre à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma et l'autre au théâtre. Et on parlera encore de cinéma dans une semaine, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.